terre par les temps qui courent, plus qu'en d'autres temps peut-être, parce que nous sommes inondés de toutes sortes de renseignements, de jugements par la télévision, par les médias. Et si on ne se réfère qu'aux médias, à la télévision, c'est le meilleur moyen de s'égarer et s'égarer en soi-même, d'égarer les autres. Au contraire, si on apprend ou si on fait l'effort d'approcher soi-même les problèmes sur la base d'auteurs sérieux et véridiques, on se rendra service et on rendra service du même coup aux autres. Alors on m'a demandé de traiter ce soir du gorbatchevisme en gros. Je n'ai pas besoin de vous dire que si on s'en remet précisément aux médias, à la télévision, ou comme on dit plus savamment aux soviétologues ou aux kremlinologues de service, un dégel se serait produit, une sorte de printemps serait en train de naître en URSS depuis l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev, qui s'appelle plus exactement Mikhail Sergeïevitch Gorbatchev, né en 1931 à Stavropol. Stavropol est une ville de 270 000 habitants située au nord du Caucase. Alors on nous dit que rompant avec la politique de ses prédécesseurs, faisant même leurs critiques, voire leurs procès, le procès en tous les cas de leur méthode, le nouveau tsar de toutes les Russies et des autres orienterait son pays vers un régime sinon tout à fait démocratique, du moins marqué par la transparence, par la glasnost. Et l'Occident met son espoir en cet homme décrit comme nouveau, ils sont toujours nouveaux d'ailleurs, intelligent, pragmatique, souriant, et dont l'épouse, oh ça alors c'est quelque chose qui est à relever, charmante, s'habille chez nous, je veux dire, de ce côté-ci du rideau de fer, qui entre parenthèses est bien toujours aussi solidement entretenu et gardé. Alors, Alexandre Zinoviev vient d'écrire, plus exactement, son livre apparu en septembre 87, un petit livre de 114 pages, intitulé « Le gorbatchevisme ou les pouvoirs d'une illusion ». Il annonce la couleur d'emblée. Il apparaît aux éditions L'Âge d'Homme à Lausanne, et vous vous doutez que ce petit livre, déjà seulement à son titre, ne va pas tout à fait dans le même sens que l'intelligentsia occidentale. Mais qui est Alexandre Zinoviev? Vous auriez peut-être la tentation de regarder dans le petit ou le grand Larousse. Ben, vous trouverez un Zinoviev, effectivement. Mais pas celui-ci. Celui que vous trouverez, c'est un certain Radomilski, dit Zinoviev. Et de ses prénoms, Grigori Yevseyevitch. Je suis pas mûr encore pour parler de russe. Vous savez sûrement, mais rappelons-le en passant, que la terminaison « vitch » est l'équivalent du « son » anglais, « Johnson », et veut dire « fils d'eux ». Staline se prénommait Joseph, Vissarionovitch, fils de Vissarionov, et notre Radomilski, dit Zinoviev, du petit Larousse, est justement un contemporain de Staline, son cadet de 4 ans, plus exactement, puisqu'il est né en 1883. Ce Zinoviev-là, d'ailleurs, formera avec Kamenev et Staline la première troïka, ou si vous voulez le trio, ou le triumvirat, comme disaient les Romains, qui détiendra le pouvoir en 1923 et 1924. Et ce trio contribuera précisément à l'éviction de Trotsky en 1926. Encore une note en passant, aucun de ces révolutionnaires, d'ailleurs, dont on entend si fréquemment les noms, ne porte son véritable nom. Si Radomilski est dit Zinoviev, eh bien Kamenev, lui, est né Rosenfeld. Lénine est né Ulyanov. Staline est né Djougatchvili. Trotsky est né Bronstein. Alors notre Zinoviev du petit Larousse, entre parenthèses, est mort en 1936, comme Kamenev. De mort naturelle, pas tout à fait, non. Ils furent exécutés pour trahison par celui qu'on appelait, qu'on n'appelle plus, le petit père des peuples. Tandis que Alexandre Alexandrovitch Zinoviev, le nôtre, est né lui en 1922, 5 ans après la révolution d'octobre. Il est devenu docteur en philosophie, membre de l'Académie finlandaise des sciences. Il est connu comme grand logicien et chef de file d'une nouvelle école de logique philosophique. Et il fut précisément, à l'université de Moscou, professeur de logique. Il était très connu à l'étranger par ses nombreux ouvrages scientifiques dans les domaines de la logique, de la linguistique et de la philosophie. Ceux-ci ont d'ailleurs paru dans les meilleures collections allemandes et américaines, je vous en cite quelques-uns, Les règles de la logique du langage, Fondement de la théorie logique du savoir scientifique, Les problèmes philosophiques de la logique complexe, un autre bouquin, La logique complexe. Tous ces ouvrages sont antérieurs à 1973. Mais parallèlement à son activité de professeur à Moscou et d'écrivain scientifique, il avait formé un groupe d'étudiants et de chercheurs qui publièrent en 1970 un recueil de travaux sous le titre « La logique non classique et théorie de la conclusion logique ». Vous savez que la logique, c'est toute une partie de la philosophie. C'est la façon de raisonner correctement. Il était encore membre du comité de rédaction de la revue « Problèmes de philosophie », mais il en démissionna parce qu'il ne pouvait pas publier les travaux de philosophes qu'il proposait. Évidemment, Gorbatchev, s'il était venu plus tôt, penserait peut-être qu'il aurait pu le faire. Donc, à son temps devenu objet de critique, il fut libéré de ses fonctions, c'est le terme qu'on emploie, libéré de ses fonctions de professeur. Et, 3 ans plus tard, en 1976, paraît un livre qui s'appelle « Les hauteurs béantes ». Alors, plutôt que d'en dire moi-même un jugement, je vous donne le jugement de quelques critiques. Max Gallo, dans l'Express, déclare « Les hauteurs béantes sont une de ces œuvres qu'un mot ou une scène ne résume pas. La tentation est grande alors de citer, à propos de Zinoviev, Rabelais, Swift, Kafka, mais ce serait encore mutiler l'œuvre géniale d'un auteur qui invente une forme sans équivalent et crée un livre décisif qui ne se laisse enfermer dans aucune définition ou comparaison. Des hauteurs béantes, on peut dire simplement 2 choses, c'est un monument vivant inoubliable, ce livre doit être lu par le plus grand nombre. Si je prends Alain Besançon dans le Figaro, la Russie soviétique étonne toujours, dit-il, cette fois elle stupéfie. Il vient de tomber de là-bas un aérolithe qui ne ressemble à aucun corps connu, un livre sans exemple, Les hauteurs béantes d'Alexandre Zinoviev. J'ose dire qu'il dépasse en profondeur, et vous remarquez que Besançon est un spécialiste du communiste, j'ose dire qu'il dépasse en profondeur tout ce qui a été écrit en URSS, sur l'URSS, y compris peut-être par Soljenitsyn. Bernard Pivot, le fameux critique littéraire de la télé française, dans Lire écrit « Alexandre Zinoviev use du burlesque, de l'humour noir, du rire tragique, de l'absurdité colossale, en même temps qu'il décrit méticuleusement tous les rouages idéologiques, tous les engrenages politiques, tous les embrayages philosophiques de la société ivanienne et en raconte son existence au jour le jour dans un foisonnement inouï de détails. » Dans Libération, Marc Kravets écrivait des livres comme « Les hauteurs béantes, il n'en arrive que quelques-uns par siècle. Vous le lirez dans tous les sens et vous ne parlerez que de ça, et vous en rêverez la nuit. » Et vous regarderez, et vos amis vous regarderont d'un drôle d'air, comme si vous débarquiez d'une autre planète. À vous de leur faire comprendre ce qu'ils savent déjà. L'autre planète, c'est la leur, la vôtre. Et Alexander Neikirch, dans un journal américain, écrit « Les hommes politiques, les historiens, les savants devraient lire attentivement ce livre, la plus importante étude sur la société soviétique et les sociétés fermées lui ressemblant, publiée depuis la Seconde Guerre mondiale. » Alors, je vous donne juste 10 lignes, c'est les 10 lignes qui sont placées en tête du livre « Les hauteurs béantes », pour voir un peu la façon de l'auteur. Alors, il a daté ces lignes « Ivanbourg », c'est pour ça qu'on parle avant de la société ivanienne. C'est « Ivanbourg, 9974 », donc c'est quelques millénaires après nous. Alors, ce livre est constitué, voilà, l'auteur feint de se placer à Ivanbourg en 9974, et l'auteur dit à ce moment-là, ce livre est constitué des bribes d'un manuscrit découvert par hasard, c'est-à-dire à l'insu des autorités, dans un dépotoir récemment inauguré et très vite abandonné. Le numéro 1 et ses adjoints, rangés par ordre alphabétique, assistèrent à l'inauguration officielle du dépotoir. Le numéro 1 donne la lecture d'un discours historique, où il annonça que le rêve séculaire de l'humanité était à deux doigts d'être réalisé, car on percevait déjà la venue des lendemains qui sentent, c'est-à-dire du saucisme. Le saucisme est une société imaginaire qui pourrait se constituer si les individus agissaient entre eux exclusivement selon les lois de la société, mais qui en réalité est impossible en raison de la fausseté même de ses postulats de base. Comme toute ineptie anhistorique, sans histoire, si les individus agissaient entre eux... Comme toute ineptie anhistorique, le saucisme possède sa théorie fausse et sa pratique erronée. Mais il est impossible de déterminer en théorie ou en pratique où commence ici la théorie et où finit la pratique. Ils sont toutes les deux erronées. Ivanbourg, localité qui ne localise rien, n'existe pas dans la réalité. Et même si par hasard elle existait, elle serait une pure fiction. En tout cas, si elle est possible quelque part, ce n'est sûrement pas chez nous, à Ivanbourg. Quoique les événements qui sont évoqués dans le manuscrit soient selon toute apparence fictifs, ils présentent un intérêt en tant que témoignage des conceptions erronées que les anciens Ivaniens avaient de l'homme et de la société humaine. Voilà, c'est le frontispice de son livre « Les hauteurs béantes » qui est un pavé d'à peu près 5 cm d'épaisseur. Alors, malgré Ivanbourg et 9974, à Moscou, on ne s'est pas trompé. Et sitôt après l'apparition du livre, Zinoviev fut démis de toutes ses fonctions, privé de tous ses diplômes, exclu du parti, car il était membre du Parti communiste, et finalement exclu d'URSS. Il a écrit depuis d'autres livres, je vous en donne simplement un raccourci, « L'avenir radieux »,« Notes d'un veilleur de nuit », »,« L'antichambre du paradis », »,« La maison jaune », »,« Homo soviéticus », Le héros de notre jeunesse va au Golgotha, Parabellum, pas comme le collège qui avait traduit ça du latin, c'est du latin, il avait écrit par en ballon, c'est prépare la guerre, hein, Parabellum. L'évangile pour Ivan, sans illusion, ni liberté ni égalité, le communisme comme réalité, nous et l'Occident. Et il n'a pas fini d'écrire. Eh bien, c'est cet homme qui ignore le Petit Larousse, édition 1988. Hein? Mais on y trouve par contre, je l'ai noté, vous l'aurez noté aussi, deux fois le mot bardeau. Une fois dans les noms communs pour désigner l'hybride du cheval et de l'ânesse, et une autre fois précédée du prénom Brigitte, cette ancienne star dont les fesses et le reste, jadis largement exposées, sont aujourd'hui quand même en train de se faner. Je vous passe l'impertinence de me faire remarquer qu'elle est de 5 ans, ma cadette. Alors, le gorbatchevisme dans tout ça. Eh bien, j'y viens, c'est-à-dire, je viens au livre de Zinoviev, Le moins épais que les hauteurs béantes. Et quand je dis j'y viens, c'est encore manière de parler, parce que je ne vais en tout cas pas vous en faire une lecture, même abrégée. Je ne vais d'ailleurs au fait que très peu en parler. Et je le prendrai plutôt comme prétexte pour en faire le support de quelques réflexions, et vous verrez peut-être que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, on ne sortira pas du sujet. Et puis, je ne voudrais pas vous priver du plaisir, si vous vous procurez le livre, de le lire vous-même, et donc faner en quelque sorte votre plaisir par avance. Mais je crois quand même que ce que je vais vous donner, c'est quelques clés pour mieux vous aider à comprendre ce qui, quelquefois, est simplement implicite. Quand on parle du communisme, il est toujours bon, nécessaire, de rappeler quelques points qui sont alors directement opposés à tout ce que vous entendez dans les médias sur le communisme. Eh bien, tout d'abord, première chose, il ne faut pas confondre et prendre l'un pour l'autre comme des équivalents, des synonymes, marxisme et communisme. Ben, la preuve la plus simple, c'est que vous avez des marxistes qui sont anticommunistes. Et ils ne sont, sont pas en, en contradiction. Donc ne pas confondre le marxisme et le communisme. Ce ne sont pas des synonymes. Il y a des marxistes qui sont anticommunistes. Qu'est-ce que c'est que le marxisme? Le marxisme, en fait, c'est une philosophie, un corps de doctrine. Dom Pie XI disait simplement déjà en 1937, dans l'encyclique Divini Redemptoris, il disait qu'elle était depuis longtemps dépassée scientifiquement et complètement réfutée par l'expérience quotidienne. Donc c'est pas la peine de s'attarder sur quelque chose qui est à l'évidence complètement dépassé au point de vue scientifique et complètement réfuté par l'expérience quotidienne. Il n'a pas écrit l'encyclique Divini Redemptoris pour réfuter le marxisme, parce que ce n'était pas nécessaire. Alors qu'est-ce que c'est que le communisme? Parce que le communisme est déclaré comme intrinsèquement pervers par Pie XI, qui dit bien le communisme est intrinsèquement pervers, il ne dit pas le marxisme. Le marxisme, il passe à côté comme quelque chose de négligeable. Le communisme, lui, c'est essentiellement une pratique, une praxis, comme ils disent. Une façon de faire, une façon d'organiser la société et d'agir au niveau politique et à tous les niveaux. Sans doute le communisme est inspiré du marxisme, mais du marxisme que les dirigeants communistes déclarent être les seuls à en donner l'interprétation authentique. Pas de n'importe quel marxisme, c'est sans doute que le communisme est inspiré du marxisme, mais de ce marxisme-là, interprété exclusivement par les dirigeants communistes. Autrement dit, si vous voulez, le communisme n'est pas au service du marxisme. C'est le marxisme qui est au service du communisme. Alors, essayons une transposition. Un catholique connaît un certain nombre de vérités parce qu'elles sont révélées, parce qu'il y accède par la raison. Ces vérités auxquelles son intelligence adhère lui servent de phare, de guide dans toute sa vie, vie personnelle, vie familiale, vie sociale, et du moins ce à quoi l'on doit tendre. C'est donc un corps de vérité absolue auquel il faut tâcher de faire se conformer et l'homme et la société, et soi-même personnellement, et la famille dont on a la responsabilité, et la profession dans laquelle on travaille, et la société dans laquelle on agit. Et toute l'action de l'Église, toutes les forces de l'Église sont au service de ces vérités et ne tendent qu'à une seule chose, ces forces de l'Église, les faire professer ces vérités, et non seulement professer, comme le dit l'Évangile, de bouche, mais faire vivre chacun, chaque homme, de ces vérités. Ah, c'est le catholicisme. C'est un corps de vérité absolue auquel on essaye de conformer toute sa vie. Le communisme n'est pas au service du marxisme. Même d'ailleurs du marxisme tel que l'interprètent les leaders communistes. Le communisme est essentiellement une action, une pratique à une action qui veut aboutir à quoi? À incarner les principes du marxisme? Non, qui veut aboutir à une chose, à une unique chose, la domination universelle et la révolution permanente. C'est ça le communisme. Le communisme, donc, n'a pas pour but de répandre l'évangile, si l'on pouvait dire, de selon saint Marx, hein, ni d'y faire adhérer tous les peuples. Non. Le communisme veut conquérir le monde et réduire le monde à sa merci. Il se servira pour cela du marxisme. Il se servira du marxisme comme d'un moyen. Et si il est nécessaire à son action. Et en vue de cette action, ils interpréteront le marxisme à leur façon, selon les circonstances. À un catholique ou à l'Église, on pourra toujours faire le reproche, par exemple, de ne pas être fidèle à telle vérité, voire de la trahir. À un communiste, ce reproche est sans objet. Encore une fois, le communisme n'a pas pour dessein de propager le marxisme jusqu'aux extrémités de la terre, pour paraphraser l'Évangile, mais d'étendre son emprise, oui, sur toute la terre. Et le marxisme est utilisé par le communisme, comme dirait Saint-Ignace, autant que, pas plus que, hein, comme un moyen au service de cette fin. Le parti n'est pas au service de sa doctrine, si vous entendez par doctrine le marxisme, c'est la doctrine qui est au service en permanence du parti. Ça, c'est la première chose capitale à comprendre. Le communisme, c'est donc une vaste entreprise de recherche et de mise en place des moyens les plus propres à parvenir au contrôle d'une nation ou d'un État. C'est une praxis, une pratique. Une fois qu'on est parvenu au contrôle d'une nation, c'est ensuite la recherche des moyens pour parvenir à garder ce contrôle. C'est la mise en place des moyens d'asservir éventuellement, quand cela se pourra, une autre nation, et ainsi de proche en proche, le plus loin possible et jusqu'au bout du monde. Le communisme est une pratique, une manière de faire pour s'emparer de l'univers. Tout est ordonné à cela. Tout est pensé en fonction de cela. Il n'y a pas de vérité stable, vraie toujours. Il n'y a que des vérités utile ou non. C'est d'ailleurs contradictoire dans les termes, mais c'est pour se faire comprendre. Des vérités utiles aujourd'hui qui ne le seront point demain et le redeviendront peut-être après-demain. Il n'y a pas une justice en soi dont les critères sont définis et qu'il faut respecter toujours. Non. Il y a simplement une justice qui sert ou qui ne sert pas. Le critère de la guerre juste donné par Mao Tse-tung est très simple. Une guerre est juste d'un point de vue communiste si elle sert le communisme. Elle est injuste si elle le dessert. On va peut-être laisser servir, c'est plus simple. Ça mise en place des moyens concrets pour dominer un pays et étendre cette domination jusqu'aux confins de la Terre. Il n'y a pas de critères, comme nous en avons dans le monde occidental, pour dire « voilà ce que c'est que la justice ». Alors essayons de conformer une situation donnée à la justice. Des relations de travail, des relations entre États, des relations entre particuliers. Les conformer à une notion de justice qui est toujours vraie. Ça n'existe pas, ça, du côté communiste. Il n'y a pas des idées qui sont toujours vraies. Encore une fois, le communisme n'est pas un parti, un mouvement au service d'une idée pour étendre cette idée dans le monde et l'incarner dans les faits. Le communisme est une action qui peut se servir d'idées autant que, pas plus que. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas l'être demain et peut le redevenir vrai après-demain. Pour nous seulement, c'est une contradiction. Quand, par exemple, on voit la Russie livrer des armes à l'Éthiopie et on les entend protester contre les États-Unis qui livrent des armes aux Contras du Nicaragua. On dit, mais enfin, quelque chose qui ne joue pas. Si, ça joue parfaitement. Les armes qu'ils livrent à l'Éthiopie servent leur cause et c'est pour ça qu'ils les livrent. Les armes que les États-Unis servent aux Contras desserrent leur cause et c'est pour ça qu'ils crient contre. C'est ça le critère, toujours. Je vous rappelle le critère de Mao, c'est quand même quelqu'un qui savait un peu de quoi il parlait, le seul critère qu'il donne pour une guerre juste, c'est est juste la guerre qui sert le communisme, est injuste celle qui le dessert. Alors si vous regardez avec ses yeux toute la situation internationale, alors vous commencerez de comprendre ce qui vous paraît étrange quelquefois à entendre de la part de dirigeants communistes. Et vous commencerez par trouver assez baba ceux qui s'étonnent des prises de position éventuellement divergentes de communistes, qui disent « on ne comprend pas pourquoi, comment ça se fait que... » Alors ils sont toujours en train d'appliquer aux dirigeants communistes une logique qui est la nôtre, une logique qui se réfère à des valeurs qui sont constantes. Alors ils disent bon, ils ont compris cette fois-ci, ils vont se conformer, mon œil, ils vont se conformer. Ils se conformeront si ça les sert, mais ils ne se conformeront absolument pas si ça les dessert. » Ça, c'est la première chose à bien comprendre. Donc il n'y a pas pour eux de critères, de vérité stable, de critères en vertu duquel on jugerait son action, en vertu duquel éventuellement on se repentirait. Ils peuvent avoir changé de tactique, les communistes, mais au nom de quoi? Pour dire, écoutez, nous nous sommes trompés, nous avons gravement failli contre la justice, mon œil. Qu'est-ce qu'ils vous diront? Ça n'a pas été payant. La tactique qu'on a développée là, ça n'a pas été payant. L'Afghanistan, s'il se retire demain, vous croyez que c'est pour les beaux yeux du peuple afghan ? Mon œil ! C'est simplement parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui que le fait de poursuivre la guerre en Afghanistan, ça les dessert sur d'autres champs, parce qu'ils n'ont pas uniquement l'Afghanistan comme couverture, comme front, si on peut dire. Ça les dessert sur les autres fronts. Et qu'au contraire, voyant les benêts d'occidentaux commencer de crier « Ah oui, vraiment, il y a un retour, etc. », ils vont se dire « Bon, ben, on va lâcher momentanément l'Afghanistan, encore qu'ils ne lâcheront pas, ils lâcheront en apparence, parce qu'ils pourront percer ainsi ailleurs plus facilement, en utilisant les benêts d'occidentaux, hommes d'État compris, et quelquefois hommes d'Église aujourd'hui, faut bien le dire. » Se mettre ça dans la tête une fois pour toutes et ne plus se laisser tromper là-dessus, le communisme est une action, est une pratique, est une praxis. Non pas au service d'une idée généreuse, de principes généreux, de vérité, non. Au service d'une seule chose, la conquête du monde. Si on ne comprend pas ça, on perd tout. On s'exposera à mal juger de tout. Alors une guerre de libération à condamner, si c'est une libération contre le communisme. C'est intrinsèquement mauvais, diront-ils. Mais une guerre de libération qui déstabilise un pays occidental, bonne guerre, à encourager. Ils ne le diront peut-être pas de la même façon. Ils sont encore diplomates, ils sont intelligents, il ne faut pas les sous-estimer. Vous entendez parler cette dernière année de grandes démarches pour la paix en Occident, comme il y en a eu des centaines de milliers de gens qui sont rassemblés du jour au lendemain pour manifester contre l'horreur nucléaire, ça tombe du jour au lendemain comme une baudruche qu'on pique avec une épingle. Pourquoi ? Parce que sur ces centaines de milliers de gens, il y en a certainement 90% qui sont des gens sincères, mais bornés. Et le 10% restant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les manipulent, les autres. Alors, si eux sont en train éventuellement, c'est des champions au point de vue tactique, s'ils sont en train de faire quelque chose sur quoi ils ne veulent pas qu'on ait trop les yeux, alors ils vous flanquent en Occident un grand tournis, carrousel de manifestations pour la paix, pour le nucléaire, etc. Et puis tous les médias sont braqués là-dessus et eux font le petit coup tordu ou le grand coup tordu qu'ils ont l'intention de faire. Tout est organisé comme ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre de leur part. Et tout ce qu'on nous présente aujourd'hui de Gorbatchev ou n'importe, on le verra plus loin, c'est pas autre chose que ça. C'est une immense politique d'intoxication de l'Occident. Et on a au service de cette politique d'intoxication les gens qui n'y comprennent rien chez nous. Quelle que soit leur place d'ailleurs. Quelquefois elle est haute. Et alors ce qu'a condamné comme intrinsèquement pervers Pie XI, et ça le demeure, c'est pas passé, c'est le communisme, justement. Pas le marxisme, le communisme. Comme façon d'agir, comme méthode de faire pour conquérir le monde, pour organiser les États en ayant la mainmise communiste. Première grande. Deuxième grande vérité, savoir ce que c'est une fois un petit peu que le Parti communiste. Si vous allez vous établir par hasard demain à Moscou, et si vous pensez que vous présentez un guichet pour dire je veux ma carte du parti, voilà, il faudra peut-être déchanter. Une première constatation très simple, vous pouvez prendre le dictionnaire, quelquefois il y en a qui sont publiés, des partis communistes du monde entier. Eh bien dans aucun pays, y compris là où le communisme est au pouvoir, dans aucun pays, le Parti communiste ne représente plus de 5 à 6% de la population totale. Le Parti communiste en Chine, le Parti communiste au Vietnam, en Russie, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, tous les pays au-delà du rideau de fer, etc., ils sont au pouvoir. Aucun parti ne représente plus de 5 à 6%, par accident, pour une période, 10% au grand maximum, de l'effectif total de la population. Est-ce que vous croyez qu'alors qu'ils peuvent faire voter à 99,99%, ils n'auraient pas les moyens de faire embrigader les gens et d'avoir des partis qui représentent le 100% de la population ? Ce n'est pas une question de manque de moyens. Il y a autre chose derrière. Et qu'est-ce que c'est cette autre chose ? Eh bien, c'est que justement, le Parti communiste n'est pas un parti de masse, mais un parti de cadre. Si je vous demande quels sont les organes du pouvoir en URSS, en Russie, et la même chose vaut pour tous les pays où ils ont pris le pouvoir. Bon, vous me direz, oui, il doit y avoir le Politburo, on entend des fois dans les journaux, puis il y a le secrétariat central, puis il y a le comité central. Puis je vous dis quoi, les organes du pouvoir en URSS, c'est ça? Mais vous foutez dedans. Allez voir la Constitution soviétique. Et croyez pas que la Constitution soviétique, ce soit simplement des bobards. Allez voir la Constitution soviétique, vous ne trouverez pas le Politburo, vous ne trouverez pas le comité central, rien du tout. Qu'est-ce que vous allez trouver? La Constitution soviétique mentionne comme organe supérieur du pouvoir de l'État, c'est à l'article 30, le Soviet suprême, qui est composé de deux assemblées, c'est comme chez nous l'Assemblée fédérale, si vous voulez, avec le Conseil national et le Conseil des États, et bien là-bas il y a le Soviet suprême, qui comprend le Soviet de l'Union et le Soviet des nationalités. Voilà, le Soviet des nationalités, ce serait le Conseil aux États. Et le Soviet de l'Union, toutes les républiques, c'est le Conseil national. Ce Soviet suprême se réunit en session parlementaire d'une semaine, et entre les sessions, le pouvoir d'État suprême, le pouvoir supérieur de l'État, est assuré par le présidium du Soviet suprême. Autrement dit, ce serait, si ça existait l'équivalent chez nous, par le bureau de l'Assemblée fédérale. Combien de membres comprend ce présidium? Une trentaine, dont le président remplit les fonctions de chef de l'État. Donc, vous voyez bien cette organisation, dans la Constitution, à l'article 30, le Soviet suprême, composé de deux chambres, si on pourrait dire, deux assemblées, le Soviet de l'Union, le Soviet des nationalités, qui siège pendant une semaine, plus ou moins régulièrement, hors des sessions parlementaires, c'est le présidium de ce Soviet suprême qui représente le pouvoir supérieur de l'État, une trentaine de membres, le président et chef d'État. Ça, c'est, si on pourrait dire, le législatif. Et puis, vous avez l'exécutif. C'était l'article 64 de la Constitution soviétique. Le Conseil des ministres, notre Conseil fédéral, qui est présidé par un président du Conseil des ministres, élu par le Soviet suprême, par les chambres fédérales, est composé d'un grand nombre de ministres. On a plus de 7 qu'on a chez nous. Et un article 65 règle les pouvoirs, ses pouvoirs, donc Soviet suprême, Conseil des ministres, et les rend responsables devant le Soviet suprême. La Constitution ne s'occupe pas du Parti communiste. S'en occupera, on verra de quelle manière. Mais si vous pensez qu'au terme de la Constitution soviétique, le Politburo a quelque chose à voir, vous vous trompez, ce n'est pas un organe de l'État. Le comité central n'est pas un organe de l'État. Le secrétariat central des partis communistes n'est pas un organe de l'État. Et si vous allez dire ça à un russe, il se foutra de vous, il aura raison. Deux chambres, Soviet suprême en deux chambres, Conseil des ministres exécutif. Le président du présidium du Soviet suprême, donc de ces deux chambres, c'est le chef de l'État, et puis vous avez le président du Conseil des ministres. Le PC, lui, a son organisation à lui, qui ne figure pas dans la Constitution. Il y a un congrès qui se réunit tous les 5 ans pour approuver le plan quinquennal et pour élire un comité central. Un comité central et à côté une commission centrale de contrôle. C'est une espèce de tribunal suprême du parti qui tranche des décisions qui touchent l'admission ou l'exclusion du parti. Alors, je vous ai dit ce qui était l'organisation de l'État. Le parti, lui, est composé d'un congrès qui élit un comité central. Ce congrès se réunit chaque 5 ans. C'est pour ça que vous avez le discours de Khrouchtchev au 20e congrès du Parti communiste. Il faudra attendre 5 ans pour qu'il y ait le 21e congrès du Parti communiste. Et on est aujourd'hui, je ne sais pas, au 24e ou 25e congrès du Parti communiste. Et il y a 60 ans qui sont au pouvoir, même plus, 71. Alors le comité central du Parti communiste, il se réunit au moins 2 fois l'an. Alors c'est lui qui élit le bureau politique du comité central du Parti communiste ou Politburo, ou encore présidium du comité central. Alors vous voyez, le congrès qui élit le comité central, qui lui élit le Politburo, et qui élit aussi le secrétariat et un secrétaire général. Et les militants les plus importants du Parti communiste sont à la fois membres du comité central et du Politburo. Mais vous avez la même chose chez nous. Je prends n'importe quel parti cantonal. Ici, vous avez une assemblée de délégués, une assemblée générale, l'assemblée de délégués. Vous avez un comité cantonal. Vous avez un comité directeur. Et vous avez un bureau du parti, le comité central, le parti communiste, organisé de la même façon. Si on ne regardait les choses que de l'extérieur, c'est démocratique. Hein? Disons, des assemblées parlementaires élues. C'est démocratique. Ça s'appelle démocratie populaire, par dérision d'ailleurs. Alors, vous voyez l'organisation de l'État et vous voyez l'organisation du parti. La Constitution, elle, ne traite que de l'organisation de l'État. J'ai dit que la Constitution soviétique ne mentionnait pas comme organe du pouvoir l'EPC et ses organes, le Parti communiste et ses organes. Mais il faut lire l'article 126. L'article 126 dit ceci. Je cite. « Conformément aux intérêts des travailleurs et afin de développer l'initiative des masses populaires en matière d'organisation ainsi que leur activité politique, le droit est assuré aux citoyens de l'URSS de se grouper au sein d'organisations sociales, deux points, syndicats professionnels, unions coopératives, organisations de la jeunesse, organisations de sport et de défense, sociétés culturelles, techniques, scientifiques. Point virgule. Les citoyens les plus actifs et les plus conscients, appartenant à la classe ouvrière, aux paysans, travailleurs et aux travailleurs intellectuels, s'unissent librement au sein du Parti communiste de l'Union soviétique, virgule, Parti communiste, avant-garde des travailleurs dans leur lutte pour la construction de la société communiste et noyau dirigeant de toutes les organisations de travailleurs, aussi bien des organisations sociales que des organisations de l'État. Fin de l'article 126 de la Constitution soviétique. Je répète, dans la Constitution soviétique, le PC n'est pas mentionné comme organe du pouvoir. Je vous ai donné quels étaient les organes du pouvoir. Le parti a de son côté son règlement, ses statuts, son organisation. Mais voilà cet article 126. Là-dedans, il y a deux termes qui sont importants. Tout est important, ce n'est pas du remplissage qu'ils ont mis, mais je veux mettre l'accent sur deux termes. C'est quand on dit le Parti communiste est l'avant-garde des travailleurs dans leur lutte pour la construction de la société communiste, ça c'est le premier point, et le deuxième point, il est le noyau dirigeant. Alors, avant-garde. Le Parti communiste ne groupe que les citoyens les plus actifs et les plus conscients, dit l'article 126. Le parti n'est pas ouvert à tous. Vous pouvez être un grand génie, si vous voulez, et on vous dira non, monsieur. Il ne rassemble que les plus militants. C'est une caste fermée, où n'entre pas qui veut, et dont l'exclusion fait de l'exclu du jour au lendemain un néant. Vous croyez que c'est simplement pour la frime qu'ils vous excluent Zinoviev du Parti communiste, qu'ils ont exclu Solzhenitsyn et qu'ils en excluent d'autres ? Du jour au lendemain, si vous êtes exclu du Parti communiste, vous tombez dans le néant, et quelquefois dans la misère, et même certainement dans la misère. Les effectifs. En 1927, les effectifs du Parti communiste soviétique étaient de 1 200 000 pour une population de 160 millions. Khrouchtchev, en 1960, annonçait 8 millions. Pour une population de 200 millions, avec 4%. Alors le grand Larousse, 76, écrit plaisamment, malgré de sévères conditions d'admission, le PC comptait en 1974 plus de 14 millions de membres, pour une population de 250 millions, oublie-t-il de préciser. Et François Feichtot, dans son dictionnaire des partis communistes et des mouvements révolutionnaires, qu'on trouve chez Casterman, où il a été édité en 1971, indique, pour l'époque, 13,5 millions de membres en 1968. Mais même si on prend le 14 millions du Grand Labousse, cela représente exactement 5,6%. Dans un pays, je le répète, où le communisme est au pouvoir, jamais on n'atteint plus de 6% comme membre du parti, libéralisme ou pas. Khrouchtchev ou Staline ou Gorbatchev. C'est comme ça. Comme l'écrit Boris Souvarine dans son livre, c'est son ouvrage Staline, c'est un ouvrage fondamental, il a été écrit en 1935 et réédité en 1975 au Champ Libre à Paris, en 77, pardon, il a été écrit entre 30 et 35. Souvarine était un compagnon de Lénine, de Staline, etc., des premières heures, et il s'est fait évincer pour non-conformisme. Eh bien, il écrit ceci. Environ la moitié de l'effectif des membres du parti se compose de fonctionnaires de l'État, des administrations syndicales et coopératives ou d'institutions annexes du parti. L'autre moitié des effectifs du parti, elle est employée dans la production, elle jouit d'une sécurité matérielle appréciable et n'aspire qu'à la consolider, qu'à se consolider dans l'appareil. Remarquons que, recruté par cooptation, le Parti communiste fait simultanément l'objet d'une épuration permanente. Vous n'êtes pas membre à vie. Hein. Les chiffres soviétiques pour les années 1921 à 1929 montrent qu'en 9 ans, le PC a liquidé, et le plus souvent par emprisonnement, déportation ou exécution, plus d'un demi-million de ses propres adhérents. Pas des autres, de ses propres adhérents. Hein. C'est la référence qui est donnée, la vraie Russie des soviets, c'est dans un bouquin paru chez Plon en 1948 de David J. Dalin. Vous me direz, oui, le type de l'autre côté, hein, c'est clair. Bon. Ben alors, Khrouchtchev. Hein. Ben Khrouchtchev, dans son rapport du 25 février 1956 au 20e congrès du parti, souligne le fait suivant. C'est lui qui le dit. Il est bien placé pour le savoir. Hein. Le 17e congrès fut réuni en 1934. 34, le 17e, et on est au 20e en 56. Et s'appela, il est resté dans l'histoire, sous le nom de congrès des vainqueurs. Le 17e congrès, il est resté dans l'histoire sous le nom de congrès des vainqueurs. Parce que, faisant suite à une épuration qui avait en un an nettoyer quelques 300 000 membres indignes. En un an, ils avaient évincé 300 000 membres indignes du parti. Et c'est pour ça qu'ils se sont appelés le Congrès des vainqueurs. Eh bien, en 1956, hein, sur les 1966 congressistes vainqueurs, 1108 avaient été liquidés. Et sur les 139 membres que le Congrès vainqueur avait élus au comité central, 98 avaient subi le même sort. Alors vous voyez que ce n'est pas une assurance vie que vous prenez quand vous entrez dans le parti. Hein? C'est une assurance risque de rester dehors, c'est une assurance risque d'y rentrer. Donc la purge n'a pas cessé. Même si elle n'est pas aussi visible, parce qu'en son temps, c'était la Sibérie ou le poteau. En pleine guerre contre avant Hitler, Staline a fait zigouiller une douzaine de maréchaux. Hein? Donc la purge n'a pas cessé, elle existe encore aujourd'hui, même si elle n'est pas aussi visible, et si elle ne se termine pas par une liquidation physique. Et vous avez, si vous avez lu Solzhenitsyn, vous avez ces récits qui sont, on peut dire, traversés de ces récits d'anciens responsables communistes emprisonnés soudain et qui ne savent pas pourquoi et qui protestent encore de leur loyauté et qui continuent de croire au communisme. Alors, vous voyez ce que c'est que cette avant-garde des travailleurs. Retenez le nombre que ça représente, 5-6% dans tous les pays. Ne confondez pas quand vous voyez le Parti communiste français qui va voter, qui arrive à 25 000. Ben, les 25 000, il ne faut pas confondre le nombre de votants avec le nombre de communistes. Hein, il y a ceux qui votent communistes et qui n'y croient pas plus que tant, ou bien qui ont cru que le communisme pouvait leur apporter quelque chose, puis ils votent communistes comme en Italie d'ailleurs. Ah, c'est une chose ceux qui votent communistes. Et c'est une autre chose le Parti communiste. Et vous comprendrez maintenant ce que dit Marchais. On s'en fout pas mal du nombre, en gros. On s'en fout pas mal du nombre d'électeurs qu'on a. Parce que vous avez une chose qui est certaine, c'est que avec le recul qu'ils connaissent actuellement le Parti communiste, c'est au point de vue électorat, mais au point de vue d'organisation interne, il n'y en a pas un de moins. Avec les purges qui se présentent, et puis de temps en temps un Juquin qui se taille, et puis qui en ramasse quelques-uns qui sont aussi branlants, mais ceux-là, ils ne tiennent pas à les garder. Hein, c'est loin. Et vous remarquerez l'organisation qui est la même, le Congrès, qui élit le comité central, qui élit le secrétaire central. Ceux-là sont en nombre aussi identique, 5 à 6%. Quand vous avez des effectifs, disons, des votations à 25 000, je ne sais pas combien, oui, 25 000 voix, disons, le Parti communiste, prenez le 5 à 6% pour savoir combien il y a d'apparatchiks. Les autres sont des gens qui votent, comme ça, parce qu'ils se sont laissés avoir, si on peut dire, par les promesses qui ont été faites, et puis... comme eux-mêmes ont des problèmes et qu'ils sont victimes quelquefois d'injustice, ils disent peut-être que là, on va enfin trouver une réparation de nos injustices. Alors vous voyez un peu ce qui se fout pas mal de ce qu'on vous offre. Il y a d'ailleurs ce mot de Lénine. Il y a ce mot de Lénine qui dit, si vous croyez un seul instant que Lénine s'est penché sur la situation de son peuple pour dire quelle souffrance il y a, il faut que je remédie à ça. C'est pas ça qu'il va chercher. C'est pas ça qu'il va chercher un communiste. Et tiens, il y en a qui râlent. Comment est-ce que je pourrais les utiliser pour faire péter la baraque ? Crûment dit, c'est ça. C'est comme ça qu'ils font. Là, il y a une force. Il y a des types qui râlent. C'est bon pour déstabiliser. Hein? Comment est-ce que je vais pouvoir les utiliser ? Oh, mais vous êtes victime d'injustice, le patronat, etc. Au patron, ils diront, vous savez, c'est salopard, les ouvriers, ils ne sont pas gênés par ça. Comprenez ? Mais c'est la démarche, c'est toujours celle-là, celle d'un communiste. C'est là où il y a une fissure, foutre le coin pour élargir. Comprenez qu'il faudra avoir la truelle avec du ciment toujours pour toutes les fissures les boucher, mais aujourd'hui c'est peut-être pas. On est très minoritaire les porteurs de truelles. Alors, ça, c'est deuxième notion capitale, c'est l'avant-garde des travailleurs. C'est un cercle fermé, n'entre pas qui veut, et en sort qui ne veut pas, hein, parce qu'il est balayé. Hein. Et je dis, quand vous sortez, quand vous perdez, parce que souvent c'est lié à la fonction, il y a la voiture de fonction, il y a l'appartement de fonction, il y a toute une série de choses qui sont très, très utiles dans la vie. Vous perdez votre qualité de membre du parti, vous perdez tout ça, hein, tout en même temps. Et vous n'êtes plus reçu. Vous n'êtes plus reçu par les autres membres du parti qui disent, moi je n'ai pas de contact avec cette brebis galeuse. Hein. Et les autres ne sont pas membres du parti, ils n'ont rien à dire. Ce que vous voulez faire, c'est comme ça. Première chose. Avant-garde, et je vous ai dit, deuxième chose, noyau dirigeant. La Constitution dit que le parti est constitutionnellement, en vertu de l'article 126, le noyau dirigeant de toutes les organisations de travailleurs, aussi bien des organisations sociales que des organisations d'État. Alors, qu'est-ce que c'est le noyautage, au sens communiste ? C'est une méthode, vous voyez, on retrouve les moyens, la praxis. C'est une méthode de direction et de gouvernement propre aux communistes et dont ils font une application universelle. Il n'y a aucune dérogation à ça. Au-delà, comme de ce côté du rideau de fer, il n'y a pas de dérogation, c'est un principe d'action universel, le noyautage. Le terme noyautage, dans un langage courant, indique plutôt une idée de pénétration d'une organisation par un élément. On dit, ouais, ils se sont fait noyauter, cette équipe-là, par une bande de gens foutre. Bon, mais c'est, attention. Il y a ce qu'on entend par noyautage dans le sens courant, et puis il y a ce qu'on entend au sens communiste. Il faut le prendre véritablement dans le sens premier du mot. La pénétration communiste, ce qu'on appelle la pénétration communiste dans une organisation, n'est pas encore le noyautage. C'est une pénétration, c'est tout. Dans une organisation pénétrée par des communistes, les communistes exercent une fonction plus ou moins importante, une influence plus ou moins occulte, mais ils ne contrôlent pas et ne dirigent pas l'organisation. Si le MJCV est tout d'un coup pénétré par un ou deux éléments communistes, le président resterait en place et vous vous réuniriez ou n'importe, ils essayeraient, est-ce qu'on pourrait pas faire ceci, etc. Ils essayeraient d'influencer, bien sûr, mais ils ne dirigent pas, ça c'est simplement de la pénétration. Ils ne dirigent pas, c'est un premier stade la pénétration, elle est nécessaire comme premier stade, mais ce n'est pas le noyautage. Tel mouvement de résistance, par exemple, comme le FLN algérien en son temps, en 1960, était pénétré, il n'était pas noyauté. La CGT, au début de son histoire, était pénétrée, elle n'était pas noyautée. Aujourd'hui, la CGT est noyautée. Après avoir été pendant des périodes de son histoire seulement pénétrée. L'article 126 de la Constitution stipule donc que toutes les organisations sociales ou d'État ont comme noyau dirigeant, pas n'importe quel noyau dirigeant, le Parti communiste. La totalité donc du pouvoir politique, administratif, judiciaire et policier est noyauté. Et quand le parti est au pouvoir, et partout où il est au pouvoir, il en va ainsi, je dirais, organiquement. Quand le Parti communiste n'est pas au pouvoir, il ne peut compter pour établir son noyautage que sur son habileté manœuvrière, son sens de l'organisation, son efficacité de propagande, la pratique de sa dialectique, pour s'introduire à l'intérieur des organisations. Mais cela avec ou sans l'appui de la loi, sans l'appui de l'État, sans l'appui de la police. Mais quand il y a le noyautage, et comme cela existe dans les pays où le Parti communiste a mis la main, c'est le contrôle, le noyau dirigeant, avec l'appui de la loi, de l'État, de la police. Là où il n'a pas le pouvoir, le noyautage, même réussi comme la CGT, il reste quand même précaire, parce qu'il y a d'autres forces qui peuvent intervenir, et qui peut faire éventuellement sauter le noyautage. Mais là où le pouvoir est pris, il faut bien comprendre ceci, c'est constitutionnellement qu'il ne peut être mis en question. Le mettre en question, c'est être traître à la Constitution, ça vous vaut le poteau, le tout. Hein? Alors revenons à la Constitution soviétique, ainsi qu'on l'a vu, celle-ci prévoit des organes supérieurs du pouvoir de l'État. Je vous ai montré lesquels. Soviet suprême, son présidium et son conseil des ministres. Il ne stipule nulle part à la Constitution que ces organes doivent des comptes au comité central ou au bureau politique du parti. Mais pourtant, il n'y avait rien qui les empêchait de le dire. De le dire clairement, dans la Constitution. Il ne l'a pas fait. Et ces comptes, les organes supérieurs n'ont effectivement point à les rendre. La structure politique visible, apparente, de l'État soviétique est donc démocratique et parlementaire. C'est pourquoi d'ailleurs tous ces régimes s'appellent démocratie populaire. Mais constitutionnellement aussi, le Soviet suprême, le Conseil des ministres, toutes les organisations sociales, toutes les organisations d'État, ça veut dire tous les tribunaux, l'armée, la police, etc., ont un noyau dirigeant et un seul, c'est le Parti communiste. L'organisation au niveau international est bâtie sur le même type. Avant la sécession chinoise, on pouvait même parler d'un seul parti communiste dans le monde entier. Et à ce moment-là, le parti français s'appelait, vous n'en souvenez certainement pas, mais il s'appelait Section française de l'Internationale communiste. Section française de l'Internationale communiste, en abrégé SFIC. Rien là non plus ne stipulait que les divers partis communistes nationaux doivent une obéissance inconditionnelle à Moscou. Mais ces partis étaient aux mains d'un noyau dirigeant d'obédience soviétique. Par l'éclatement chinois, nous nous trouvons aujourd'hui devant des partis nationaux, aux mains, parce que c'est un type universel d'organisation, aux mains forcément d'un noyau dirigeant. Mais ce noyau dirigeant peut être d'obédience soviétique ou d'obédience chinoise. Et dans les pays du tiers-monde, c'est la bagarre constante, quelquefois à mort, entre Russes et Chinois, pour supplanter dans un PC local le noyau russe par le noyau chinois, ou l'inverse. Mais le principe, je dis, d'un noyau dirigeant ne saurait être mis en cause. Voyez-vous, quand Tito, en 1948, a rompu avec Staline, les médias sont... Oh, formidable, il rompt avec la Russie, on va pouvoir traiter, alors il faut l'encourager tout de suite, qu'est-ce que vous voulez, quoi, qu'est-ce que... Alors qu'est-ce qui s'est passé, Tito? Il avait, au préalable, avant de rompre, rétrogradé ou écarté un certain nombre de dirigeants yougoslaves et expulsé divers qu'on appelle experts soviétiques. Hein? Il avait, autrement dit, lui qui était un bon communiste formé à Moscou et qui connaissait la machine de l'intérieur, qui savait comment elle fonctionnait, il avait liquidé le noyau dirigeant russe. Le noyau dirigeant par lequel la direction communiste de Moscou contrôlait le PC yougoslave, et donc la Yougoslavie, forcément, statutairement, constitutionnellement. C'est ça qu'il a fait. Il n'a pas cessé d'être communiste. Et il a organisé son parti en Yougoslavie, exactement selon le même type du noyau dirigeant, mais le noyau dirigeant, c'était à lui. Avant, c'était Moscou. Et c'est ça qu'on ne lui a pas pardonné à Moscou. Là. On a mis longtemps avant de pardonner. C'est Brejnev qui est venu. Alors là, les embrassades, on s'est trompé, tu parles, mon œil. Ça leur faisait une épine dans le pied, la Yougoslavie, alors s'ils pouvaient essayer de raccorder les violons un petit peu, ben ils l'ont fait. Et puis les types de nouveaux babas en Occident, pour dire, pas possible. Et puis alors, comme ça, ils avaient réussi encore. Mon Tito, il faisait partie des neutres, des non-alignés. Ah oui, des non-alignés. Ouais. Alors ce noyautage, il fonctionne, par exemple, en ce qui concerne le PC français. Qu'est-ce que vous croyez? Le noyau dirigeant est d'obédience soviétique. Et régulièrement, les représentants du PC marchés en tête se rendent à Moscou. En séjour? Oui, quelquefois. Quelquefois pour se faire soigner aussi. Enfin, ils sont quand même comme des chats échaudés aussi. Mais à l'intérieur même du parti français, il en va ainsi. Vu de l'extérieur, c'est le visage qu'il donne. Les médias sont braqués, caméras et tout ça. Hein. Alors vous avez les militants qui envoient leurs délégués au Congrès national, qui élit le comité central, lequel nomme le bureau politique, qui à son tour dirige, élit le secrétariat. PC démocratique. Et on voit les types qui votent, etc., qui interviennent et tout. Hein. Ça, c'est le visible, comme pour la constitution soviétique. En réalité, c'est l'inverse, l'organisation. Mais c'est pas possible, ils sont boyés, crétins pour pas le voir. Ils veulent pas en voir, pas en foutre. Parce que dans chaque fédération, le secrétariat de la fédération est le noyau dirigeant de la fédération, qui contrôle et organise la désignation des délégués au Congrès national. C'est ce qu'on appelle le centralisme démocratique, cinquième principe du parti en matière d'organisation, et que Marchais a dit qu'il ne serait jamais renié. Par contre, pas qu'ils peuvent laisser tomber quelques appellations qui ne sont pas très bien reçues aujourd'hui, mais centralisme démocratique, mon œil, il s'effondre s'il laisse tomber ça. Donc, ce qui s'est passé avant, ce que vous voyez, vous, c'est le dernier acte, le congrès, avec les gens qui votent, etc., ce que vous n'avez pas vu, et qui fait partie du Parti communiste partout où il est, c'est que les fédérations qui sont noyautées, noyautent bien évidemment, contrôlent bien évidemment les assemblées qui désignent les délégués. Hein? Et puis, alors, ce qui peut arriver dans un pays libre, qui n'arrive pas de l'autre côté du rideau de fer, mais qui peut arriver dans un pays libre, c'est justement l'histoire d'un Jukin. Qui réussit à attraper un ou deux de ses membres qui râlent ou n'importe, puis dire moi je vais fonder un autre parti, ça va plus, comme ils vont trop loin quand même, ils exagèrent, etc. Alors il le fait, il peut le faire. Il ne pourrait pas le faire en Russie, rassurez-vous. Là, ils ne le font pas. Hein. Là, c'est... Enfin, c'est... Vous voyez quoi. Donc, principe donc d'application universelle et universellement appliqué par les communistes, qu'ils soient ou non au pouvoir. Le noyautage, et ça entraîne une conclusion, c'est que ce principe est essentiellement, et non pas accidentellement, par occasion, clandestin. C'est l'essence même de la chose qui soit clandestin. Et ceci aussi bien quand le parti est au pouvoir, quand il n'est pas au pouvoir. L'action du parti est clandestine par nature. Par nature. La technique sociologique selon laquelle le parti est contrôlé et dirigé est clandestine dans son essence. La technique qui maintient le Parti communiste français, le Parti communiste italien et tous les autres dans une soumission inconditionnelle au Politburo soviétique est une technique clandestine. Le lien qui maintient en France, en Italie, en URSS, la CGT, par exemple, dans l'obédience au Parti communiste, est un lien clandestin. De même, le contrôle des dirigeants communistes tchèques ou hongrois ou polonais, si vous voulez, par les dirigeants soviétiques, est clandestin. J'entends en tant qu'ils sont contrôlés. Ils peuvent se rendre visite. Alors, il y a les médias, mais ils sont contrôlés, et ça, c'est clandestin. Il peut se produire dans le système un accident imprévu. Qu'est-ce que ça donne quand on est de l'autre côté des rideaux de fer? En France, ça donne Juquin, de l'autre côté, ça donne Budapest. Et les tanks. C'est tellement vital pour eux qu'ils acceptent, ils croient pouvoir considérer que le fâcheux retentissement qu'aura l'arrivée des tanks à Budapest sur l'Occident, et qui peut donc contrarier leur action internationale, ne pèse pas en face de la mise au pas. D'abord ça. Et puis tant pis pour le reste. On essaiera de rattraper le reste. On essaiera surtout, on compte surtout sur le fait que les Occidentaux oublieront Budapest. Ça, c'est sûr. Et là, ils ont raison de compter. Là, ça arrive sûr, ça. Voyez-vous, il y a une lettre qui est très intéressante et qui est de Trotsky. Madirandi, cette lettre qui devrait être célèbre, ou du moins classique, et qui ne l'est pas, qui a été écrite par Trotsky le 30 mai 1940 au procureur général de la République mexicaine. Il était réfugié à Mexico, hein, est un document capital. Qu'il soit tellement ignoré, dit Madiran, atteste la légèreté, la lâcheté, voire la corruption intellectuelle ou même morale de la plupart de ceux qui, en Occident, traitant de la sociologie du Parti communiste, parlent en réalité pour ne rien dire. Trotsky venait alors d'échapper à un attentat. Il se savait menacé et condamné. Les agents soviétiques réussirent effectivement à l'assassiner 3 mois plus tard, après qu'il ait écrit cette lettre. Et cette lettre, on peut dire qu'elle est une sorte de testament, qui donne une clé essentielle pour comprendre le fonctionnement de l'appareil. Le schéma général de l'organisation étrangère du GPU, c'était le nom du KGB à l'époque, est le suivant, dit Trotsky. Au comité central de chaque section du Comintern, c'est-à-dire de chaque parti communiste, se trouve un chef responsable du GPU, KGB, dans le pays en question. Au comité central du Parti communiste français se trouve un chef responsable du KGB pour le pays en question, la France. Généralement, dit Trotsky, sa qualité de représentant du GPU, du KGB, n'est connue que du secrétaire du parti et d'un ou deux membres du comité central. Les autres ont uniquement la possibilité de deviner la position exceptionnelle de la personne en question, en le voyant éventuellement agir ou prendre des décisions qui sont pourtant bien camouflés. En sa qualité, continue Trotsky, en sa qualité de membre du comité central, le représentant national du KGB a la possibilité d'approcher tous les membres du parti, ça c'est de droit ça, d'étudier leur caractère, de les choisir en vue de certaines tâches déterminées, et peu à peu de les gagner au travail d'espionnage et de terrorisme en appelant à leurs sentiments du devoir envers le parti, ou tout simplement en les subornant. Ça, c'est un orfèvre en la matière qui vous parle, c'est Trotsky. C'est donc par nature que cette méthode de direction et de gouvernement, à savoir le noyautage de toutes les organisations, même de l'État, est clandestine. Mais comprenez bien ce que ça veut dire, de toute l'organisation. Il n'y a pas une équipe de football qui n'est pas noyautée. La Constitution bien dit, toutes les organisations sociales d'État ou pas d'État. Dans l'armée, vous avez à côté des généraux, des maréchaux, des généraux, tout en bas jusqu'en bas, vous avez le commissaire politique à chaque section, division ou corps d'armée. Et Solzhenitsyn est précisément dénoncé par le commissaire politique, lui qui était capitaine, sur le front. Une société de loterie, si vous voulez, dans le plus petit bled, elle est noyautée. Il y a, c'est constitutionnel, il faut bien comprendre ça. C'est constitutionnel. C'est en vertu de la Constitution, ça ne dépend pas du bon plaisir des gens. C'est obligatoire en vertu de la Constitution que toutes les organisations syndicales, de travailleurs, sportives, militaires, etc., sont noyautées par le Parti communiste. Dans son livre sur Staline, Souvarine écrit de l'URSS que c'est un pays où tout est secret, même sans raison. Alors vous comprenez l'éclat de rire qui devrait nous prendre quand Gorbatchev vient et réussit à imposer à l'Occident, on ne peut pas dire autrement qu'hébété, sa politique de soi-disant transparence, la glasnost. Ce serait, si ce n'était pas si triste, ce serait à tordre les côtes. Hein? Je ne veux pas insister. Juste autre chose, un autre mythe au sujet de Gorbatchev. Dirigeant neuf, dit-on, cultivé, susceptible donc de modifier en profondeur le régime. Il a réussi à conquérir le pouvoir. Mais c'est oublier une différence abyssale, et encore le mot est trop faible, qui sépare nos régimes des régimes communistes. En Occident, ça peut arriver. Certains peuvent regretter que ça n'arrive pas assez souvent. Qu'un homme neuf émerge soudain, qui modifie les données existantes. Roger Bonvin, chez nous, est arrivé alors qu'il n'était pas dans la classe politique. Putsch, il a émergé d'un coup. Reagan, bon, il est en Californie. Madame Thatcher, bon, aussi Carter, malheureusement. Donc, ceux-là peuvent accéder au pouvoir en faisant jouer ce qu'on appelle aujourd'hui leur charisme. Bon, ils ne sont pas aperçus de Carter avec les cacahuètes comme charisme. Enfin, c'est autre chose, il a fait jouer son charisme cacahuétien, bon, c'est tout. Enfin, le système, c'est secouer les arbres pour faire tomber. Là, il a réussi à secouer les arbres pour faire tomber les rois, là, c'est tout. Alors, voilà, ça peut arriver, n'est-ce pas, le type qui dit aujourd'hui, moi, je vais aller primaire en Amérique ces temps-ci, fric, etc. Puis tout d'un coup, il peut émerger un type, je ne sais pas pourquoi. Stupeur des médias, Reagan est arrivé à un torrent qu'on n'a jamais eu. C'était Kennedy qu'ils avaient donné, hein, les experts. Mais en régime soviétique, en régime communiste. Souvarine dit ceci. Tous les experts occidentaux prévoyaient l'ascension de Molotov après la mort de Staline. Ou de Malenkov, un des deux. Au sommet du secrétariat. Ça a été Khrouchtchev. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le pouvoir en URSS. On est appelé au pouvoir par une décision du comité central du parti, Gorbatchev. Gorbatchev, il a été nommé par ses pairs. Oh, il aura bien sûrement fait quelque chose pour essayer de faire copain-copain avec le plus possible, ça sûrement, rendu des services à charge de revanche, bien sûr. Mais Gorbatchev n'a pas balayé le comité central pour arriver au pouvoir, il a été élu par ses pairs, hier. Même s'il est jeune. Il n'est quand même pas assez jeune pour que les autres soient ses pairs, PE, sans grave erreur. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand ils ont appelé Andropov, ancien chef du KGB, vous croyez que c'est Andropov qui a conquis le pouvoir? Il aurait pu conquérir le pouvoir éventuellement. Disons, vu de l'Occident, disant avec une armée parée, le commandé de KGB, zigouiller ici, zigouiller là, etc., le désert, et puis après on arrive. Il n'a pas fait. Il a été nommé par le comité central. Et Gorbatchev, homme nouveau, mon œil. Gorbatchev, s'il est aujourd'hui secrétaire général du Parti communiste, et à ce titre, s'il a le pouvoir effectivement en Russie, c'est parce qu'il a été un bon communiste. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été un bon communiste? C'est notamment, au cours de ces 10 ou 15 dernières années, d'avoir liquidé la dissidence. Voilà, c'est ça d'avoir été bon communiste, c'est d'avoir fait taire tous ceux qui voulaient, qui reprochaient, disons, qui râlaient contre l'écrasement, disons, des citoyens dans la société. C'est ça Gorbatchev, c'est un excellent communiste, il ne serait pas où il est si ce n'était pas un excellent communiste. Khrouchtchev qui criait contre Staline était un excellent communiste, il avait, bon, peut-être souffert un peu sous Staline. Hein. Alors, ils ont eu à ce moment-là, ils se sont dit, ça va pas.
comprenez, on n'est pas sûr du jour au lendemain de sa propre existence. Bon, les moujiks s'en foutent, mais soi-même, quand même, on aimerait bien être à l'abri. Alors tout d'un coup, être passé une piqûre ou bien un poteau, ça ne va pas. Alors écoutez, on va faire une trêve, vous êtes d'accord? Mais c'est comme ça que ça s'est passé. On décide, aujourd'hui, on ne se zigouille plus. Hein? Mais oui, et puis Khrouchtchev, il a pu comme ça finir ses jours tranquillement. Il est mort 15 ou 20 ans plus tard, je ne sais pas où il était. Mais les types partout, ils ont passé. Parce qu'ils ont, ils sont pas arrivés secrétaire central, vous savez, en étant ouvrier d'usine. Hein. Ils ont été, dès leur première enfance, si on peut dire, à travers les cadets et tout ça, ils sont arrivés en grimpant dans l'échelon du Parti communiste. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour grimper dans l'échelon du Parti? Ils ont fait preuve des meilleures qualités que peut faire un communiste. Et donc, j'ai pas besoin de vous faire dessin. Alors, un homme nouveau, Khrouchtchev, Gorbatchev, un vieux? Oui. Si le communiste, on le dit, Madiran, la vieillesse du monde, eh bien, c'est un vieux parmi les vieux, celui-là. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps passe. Et puis il y a encore cette vidéo à voir. Si vous avez des questions à poser, on peut éventuellement en discuter. Mais c'est des, je vous ai trouvé intéressant de vous donner ce qu'on pourrait appeler des clés pour lire quelquefois un ouvrage comme celui de Zinoviev. Il y a des passages qui sont un peu difficiles, mais vous aurez confirmation là de l'accession au pouvoir. Lorsque Mikhaïl Gorbatchev fut élu secrétaire général du comité central du parti, les médias occidentaux se mirent à lui forger une réputation de grand homme d'État. Alors lui, il ajoute, or ce banal fonctionnaire du parti avait juste eu le temps de prononcer quelques discours démagogiques habituels tels que ses prédécesseurs en avaient prononcé, de distribuer quelques sourires tout comme Khrouchtchev et Brejnev avaient souri avant lui, d'entamer une campagne de plus contre l'alcoolisme tout aussi stérile que celle qu'il avait précédée, ce qui lui valut le sobriquet méprisant de secrétaire minéral. Secrétaire minéral, voilà. Il dit, c'est devenu un cliché de dire que les dirigeants soviétiques s'emparent du pouvoir. Alors, vous avez des notations qui sont très intéressantes dans ce petit livre que je vous conseille de lire, même s'il y a des pages qui peuvent être plus ardues. Quand c'est plus ardu, vous sautez, vous allez au plus intéressant. C'est plus simple. Mais il n'est pas très long à lire. La boucle.
Juste dire deux mots à propos des consommations. Vous pouvez payer à la partie après. Et surtout, ira aux églises martyres.
Alors, la vidéo que vous allez voir, c'est sur les. Vous savez, parce que comme on nous présente en Occident, c'est, je veux dire ici chez nous, c'est l'oppression des blancs sur les noirs. Hein. S'il faut zigouiller des frères noirs, apartheid ou pas apartheid, on les zigouille. Vous verrez de quelle façon.